Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Sur RMC, RMC Story, avec Rémi Barré, Perry Collégas, Jérôme Lavrieux et Robert Sebag. Avec vous également au 32-16 pour répondre à cette question. Est-ce qu'on nous infantilise trop désormais dans la société? Vous pouvez bien sûr nous appeler au 32-16 ou nous écrire sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. Et une petite révolution dans l'immobilier, puisqu'on va désormais pouvoir acheter un appartement ou une maison, mais pièce par pièce. On a un peu d'argent. On achète la cuisine et le salon, et puis après on achète les toilettes, la salle de bain. Ouais. Stéphane nous expliquera tout ça. À 14h, la tribune de 100 jeunes pour défendre les valeurs de la corrida face à la proposition de loi d'Emeric Caron pour interdire les courses de taureaux. Faut-il maintenir les corridas en France? Et puis 14h30, RMC s'engage pour vous, Amélie Rosic, qui va tenter d'aider des parents d'élèves scandalisés par un projet d'autoroute à quelques mètres de l'école de leurs enfants. Et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
Il est 13h04, vous êtes sur RMC et on va parler vie quotidienne. Vous l'avez certainement remarqué, depuis quelques semaines, on nous traite comme des enfants de 5 ans. On nous dit comment nous laver les mains, à combien il faut mettre le chauffage, à quelle heure on doit faire une machine ou encore si oui ou non on a le droit de faire un barbecue. Mais est-ce vraiment nécessaire, Rémi?
En tout cas, après éternuer dans votre coude, n'embrassez pas mamie, aérez votre logement, faites votre quatrième dose. C'est maintenant, éteignez les lumières, baissez votre clim, coupez vos appareils en votre absence ou baissez le chauffage à 19 degrés. Type de message qui se multiplient, tu l'as dit, depuis maintenant plusieurs semaines et voire même plusieurs années, et qui suscitent de vives polémiques entre ceux qui dénoncent cette infantilisation de la société et les partisans d'une sensibilisation nécessaire qui finit par payer. Un exemple parmi d'autres, manger 5 fruits et légumes par jour, slogan lancé en 2001. Ça remonte, hein. Par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, pour lutter contre l'obésité. Eh bien, un sondage réalisé 10 ans plus tard, nous étions donc en vers 2011, oui. Eh bien, nous disait qu'en France et au Royaume-Uni, 8 personnes sur 10 ne respectaient toujours pas ce conseil. Donc, à quoi ça sert de le répéter? Mais il y a des contre-exemples pour ceux qui défendent la nécessité de ces injonctions. Lors de la crise Covid, les autorités sanitaires n'ont cessé de nous répéter qu'il fallait se laver régulièrement les mains. On le sait, on n'est pas des enfants. Sauf qu'une étude Gallup internationale publiée en 2015 révélait que les Français étaient très en retard dans le domaine. Sur 63 pays sondés à l'époque, la France occupait la 50e place, avec 38% des personnes interrogées qui admettaient ne pas se laver les mains de manière automatique après être allées aux toilettes. Donc, d'où cette information, cet avis de ceux qui défendent ces injonctions, c'est plus que jamais nécessaire de les répéter et encore une fois de les répéter.
Alors Robert Sebag, faut-il arrêter de nous infantiliser?
Alors c'est vrai qu'après la crise Covid, où on a donné un certain nombre de recommandations, alors vous avez d'un côté la responsabilité des autorités sanitaires de faire un certain nombre de recommandations, ça a été très loin. Je vous rappelle quand même qu'il fallait avoir un papier signé pour sortir, alors qu'on savait qu'à l'extérieur il y avait moins de risques de se contaminer que d'avoir des contaminations intrafamiliales en restant chez soi. Donc il y a eu un certain nombre de choses. La responsabilité, c'était de dire oui, il faut se laver les mains parce que c'est, le virus peut être aussi manuporté. On nous a dit d'abord que le masque,
il n'y a pas eu de gastro et de grippe pendant un an.
Voilà, c'est vrai qu'il fallait porter d'abord pas porter le masque, ça ne servait à rien. Ensuite qu'il fallait le porter, puis quand vous le portiez pas, vous risquez un certain nombre d'amendes. Donc il y a eu des injonctions paradoxales qui fait que ce type de recommandations n'ont pas toujours été suivies. Alors là, maintenant, il y en a de nouvelles. Il y en a de nouvelles concernant l'énergie. Bon, on n'a qu'à dire exactement ce que représentent les consommations d'énergie pour les privés, mais d'abord que l'État donne l'exemple, que lui dit, nous, on va faire ça, ça va être fait, après on verra les autres. Et moi, ce qui m'a particulièrement choqué, ça je le dis, c'est l'injonction qu'on a donnée aux habitants des HLM de Lyon, en leur disant, essayez de ne pas prendre l'ascenseur, essayez d'éteindre un petit peu le hall. Quand on connaît l'état des HLM, et ce que ça représente, si vous voulez, en termes... D'abord, de toute manière, ils ne peuvent pas prendre l'ascenseur parce qu'ils sont toujours en panne.
Oui. C'est ça.
Les ascenseurs sont toujours en panne. On ne peut pas demander à des personnes âgées, même si on pourrait tolérer qu'elles prennent l'ascenseur, de ne pas prendre l'ascenseur. Là, ça me paraît complètement ridicule. C'est puis surtout, ça ne portera pas ses fruits. En plus, les problèmes de sécurité, éteindre tous les halls d'immeubles, les parkings pour les personnes qui rentrent tard, qui travaillent, des infirmières qui rentrent tard le soir, ça me paraît qu'on foute la paix aux gens, qu'on leur donne un certain nombre de choses, d'informations, et après les gens sont responsables, et en fonction des informations, ils vont dire, bah, écoutez, moi je vais essayer d'apporter un petit peu ma pierre au niveau de ces économies d'énergie.
Jérôme Lavrieux, est-ce que l'État en fait trop au risque de nous dégoûter finalement? Il n'y a, pas un jour qui se passe sans qu'il y ait un ministre qui nous dise ce qu'on doit faire, quoi.
Je trouve ça horripilant, mais vraiment horripilant. Mais pour autant, je trouve ça nécessaire.
D'accord.
Parce que sinon, on ne le fait pas de nous-mêmes. Sinon, on le fait pas de nous-mêmes.
On le fait pas quand même.
Donc, mais si,
il en reste. Mais non, mais statistiques sur les 5 fruits et légumes.
Mais il en reste quelque chose. Sauf qu'on mange pas exactement de la même manière. Et qu'en 20 ans, on a diminué notre consommation de viande de 20 kilos.
Et les fruits coûtent de plus en plus cher.
Il y a pas de campagne de pub à manger moins de viande, hein.
Non, mais
c'est pas le gouvernement.
On mange des légumes à la place. C'est horripilant. Sandrine Rousseau, puisqu'on parlait du barbecue dans le lancement, elle m'horripile. Matin, midi et soir. Et si j'allume la télé la nuit, c'est encore pire. Elle m'horripile. Pourtant, parfois, son côté horripilant me pousse à réfléchir sur certains sujets. Et
d'accord.
Au final, on en tient quelque chose. S'il faut être juste, on ne peut pas juste dire « elle est dingue, elle raconte n'importe quoi ». Il en reste quelque chose. Et ça pousse à aller un peu dans le même sens. Bien sûr que c'est infantilisant de dire aux gens « faut se laver les mains ». Je suis désolé, docteur. Ça m'a même été utile de le rappeler à certains médecins. Entre deux patients, il fallait peut-être se laver les mains.
Je pourrais vous raconter sur la saleté.
Non, on ne veut pas, Robert.
Ben oui. Pourtant, c'est infantilisant de rappeler ça à un médecin.
Prenez la consommation des dentifrices et des brosses à dents. Alors là, sur l'hygiène dentaire en France, on est les derniers.
Donc c'est chiant.
Ça ne consomme pas l'énergie de ne pas se laver les dents.
C'est infantilisant, c'est chiant, mais c'est quand même un peu nécessaire parfois, même souvent.
Non, mais après, c'est vrai qu'on a appris quelque chose. Se chauffer à 18, bon, enfin, la plupart des Français n'ont pas de thermostat, donc je ne sais pas comment ils vont faire cet hiver. Mais est-ce que vous, Perico, vous en avez marre, ou vous vous dites c'est nécessaire, mais il faudrait peut-être mieux se concentrer sur deux ou trois messages clairs, parce que là il y en a de tous les côtés, quoi.
Ce n'est que le reflet de la société dans laquelle on vit. Si on infantilise, c'est qu'il y a des comportements infantiles. Et l'individualisme...
C'est quoi un comportement infantile?
C'est l'individualisme, ma gueule, ma pomme. Donc voilà, donc on est obligé, c'est lamentable, mais c'est de plus en plus nécessaire. Je vais vous dire, c'est très simple. Les gens qui le font, ils n'écoutent pas, c'est terminé. Par contre, les gens qui ne le font pas, c'est bien que tous les jours, on le répète matin, midi et soir, lave-toi les mains, arrête de... Mais oui, ce sont des gens égoïstes, insouciants, qui croient que tout est permis. Donc, parce qu'il y a justement cette dégradation du comportement social, cette irresponsabilité collective, cette inconscience qu'il faut gérer aujourd'hui le bien de cette planète, eh bien, si les pouvoirs publics... Alors, je sais bien, c'est un petit peu...
Moi, ça me saoule qu'on me dise
de mettre un
pull
d'accord. Vous saoule parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas ça.
Mais on prend une débile.
Ben moi, écoutez, nous, ici, on n'est pas concernés, on fait tous comme il faut. Je plaisante. Mais quand on voit le comportement de certains irrespectueux, irresponsables de certaines personnes, eh bien, c'est vrai, je préférais entendre du Bach ou du Mozart à la place.
Moi, je suis d'accord autant sur les problèmes sanitaires, je suis d'accord. Sur les problèmes énergétiques, je pense qu'on peut un petit peu en discuter.
Non, parce que ça met une pression.
Je veux l'exemple. Quand on voit
la douche,
de l'environnement qui est éclairé toute la nuit et un certain nombre de choses, les ordinateurs qui sont branchés, les voitures qui laissent l'air conditionné pour pas que les ministres aient froid. Là, il doit y avoir des déclarations.
Les gosses qui passent,
avec une évaluation, avec même
des
contraintes.
Mais tu sais très bien que nous sommes tous là, le lavage des dents, on n'éteint pas le robinet. Les enfants qui passent un quart d'heure, 20 minutes sous la douche,
si, parce que les enfants, justement, aujourd'hui, je peux te dire.
Ça y est, mais quand on consigne alimentaire, on devrait en avoir beaucoup plus. Attention, alors, c'était le plan national nutrition santé, les 5 légumes, qui n'étaient pas forcément vrais, parce que, enfin, dire aux gens, attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Attention à la consommation des produits. Attention, tout le temps. Et ça sera de pire en pire.
Enfin, la bouffe, c'est jamais aussi bien porté.
Il n'y a jamais autant
les pâtes à tartiner, les chips, etc.
La malbouffe, voilà. Donc, raison de plus, ça veut dire qu'on ne l'a pas assez fait.
Et puis, moi,
autant de magasins bio pour acheter à manger.
Oui. Et puis, on voit Emmanuel Macron en basket. Moi, j'ai envie de le voir en pull cet hiver. On va voir si on le voit en pull, plutôt qu'en suite, pour donner l'exemple. Parce que ça aussi, on a envie de voir nos hommes politiques faire ce qu'ils nous demandent de faire, en fait.
C'est extrêmement important.
Enfin, j'avais
envie de voir une femme politique.
J'avais été choqué.
J'avais été habitant des HLM, Estelle. C'est un scandale.
J'avais été choqué
aux habitants de HLM de ne pas prendre l'ascenseur, pas éclairer.
C'est vrai que c'est un paradoxe,
c'est pas possible.
Tout est pété.
Non, c'est pas possible.
J'avais été choqué dans sa troisième intervention de 2020, le président de la République parle aux Français, donc après la crise du Covid, et à un moment donné il dit, n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres et d'aérer la maison. Je trouvais de la part du président de la République, effectivement, c'est peut-être pas à lui à dire ça, c'était un ministre ou un monsieur Salomon. Mais que le président dise ça lui-même, après il met des baskets, donc effectivement, c'est pas le fait.
Ça n'a rien à voir. On est avec Jean-Christophe qui nous appelle d'Angers. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-Christophe, est-ce que vous en avez marre de ces injonctions ou est-ce que vous les trouvez nécessaires ?
Non, moi je trouve ça tout à fait nécessaire et j'utilise, j'écoute ce qu'ils disent et puis après j'essaie de voir de mon côté ce que je peux faire. Et sur tous les niveaux, je vous entendais parler des 5 fruits et légumes par jour. Ben, moi au début je le faisais pas et puis je faisais 104 kilos, j'arrive à la retraite, problème de santé, et ben je le suis, ça fait 3-4 ans que je le suis, maintenant je suis arrivé à 80 kilos. Alors il n'y a pas que ça, j'ai fait attention à tout le reste,
mais c'est bien.
Je me suis remis au sport. Vous parlez de monter les escaliers, c'est un scandale. Là, je viens d'entendre le médecin qui me dit c'est un scandale de demander aux gens de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur.
Non, j'ai pas dit ça.
Ah non, VHLM.
Il disait que les ascenseurs sont pétés. Je te donne une HLM où la plupart des ascenseurs ne marchent pas. Demander aux gens de ne pas le prendre et des personnes âgées, ça n'a rien à voir. Mais vous avez raison. Quand on peut monter l'escalier, c'est un exercice physique très très utile.
Il m'a demandé de faire du sport. Bon, moi, je faisais un peu la gueule.
Ça, oui.
Je suis remis depuis. Mais il m'a dit, vous habitez où? Dans une maison? Je vais expliquer, j'habite au troisième étage. Et ben, il a dit, essayez de prendre un étage, deux étages, trois étages.
Ça, oui.
Maintenant, systématiquement, je prends mes trois étages à pied. Sauf quand j'ai les sacs de course, hein.
Oui, mais alors, Jean-Christophe, vous avez dit un truc très intéressant. Votre médecin vous a demandé. Là, vous êtes pas dit, tiens, je vais maigrir parce que le gouvernement m'a dit qu'il fallait manger 5 fruits et légumes. C'est parce que votre médecin vous l'a dit, vous avez écouté ses messages.
Ben, oui, mais ça fait quoi le résultat? Ben, alors, je peux vous citer d'autres exemples que sur les économies d'énergie. J'ai un salaire convenable, l'électricité je peux la payer, malgré tout je vois bien que les notes augmentent et je suis un peu radin, donc je cherche des moyens pour les diminuer. Donc j'écoute ce qu'ils disent, et par exemple sur les machines à laver, nous on faisait beaucoup de machines, on a une 9 kilos, j'ai dit, on a pesé le linge une fois, puis on a dit, mais des fois on n'est même pas à 3 kilos, 2 kilos.
C'est vrai.
Donc on a fait diminuer vachement notre nombre de machines.
Et ça c'est grâce au gouvernement alors?
Grâce au gouvernement, aux conseils qu'ils ont donnés.
D'accord.
Après, alors c'est des conseils, hein, c'est parce que vous dites injonction, mais injonction, c'est obligation, hein, regardez dans le dictionnaire.
Oui, mais quand vous dites à un enfant trois fois par jour que ce serait bien qu'il fasse quelque chose, bon, bah, normalement, c'est parce que vous avez envie qu'il le fasse.
Oui, hein. C'est autre chose, oui. Oui, d'accord. Bon, ouais. mais voilà, moi, j'essaie de suivre un peu tout ça. Alors, c'est vrai que,
Vous réussit.
Et ça me réussit, donc moi, ça me va bien. Et si tout le monde faisait pareil, je pense qu'on pourrait.
C'est vrai. Et si ça vous va, Jean-Christophe, ça nous va. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. C'est intéressant ce que dit Jean-Christophe. Justement, voilà, lui, il les suit et ça lui permet de vivre mieux finalement.
C'est vieux comme le monde. Le carême n'a jamais été prescrit par Jésus-Christ ni par l'Évangile. C'est que l'Église, alors les pauvres crevaient de faim, il n'y a pas de problème, mais pour limiter la suralimentation de la noblesse et de la haute bourgeoisie, l'Église a imposé un régime alimentaire. Je pense que le Ramadan doit relever un peu de ça. Et pendant 40 jours, on était obligé de faire des pauses sur un motif religieux uniquement pour un motif social et sanitaire. Donc, les pouvoirs publics, religieux ou politiques, ça fait longtemps qu'ils disent au peuple comment se comporter.
Rémi, vous avez plein de messages sur l'application RMC?
Nombreuses réactions sur rmc.fr, l'application RMC Direct Studio, comme certains qui défendent l'idée d'être libre. Il y en a ras-le-bol qu'on nous dise quoi faire. Et il y a aussi le pendant, ceux qui défendent ces injonctions, ces recommandations, comme on voudra, comme Christophe qui nous dit, bien sûr, il faut continuer d'infantiliser, car vu le comportement d'une partie des Français, pour certains, c'est niveau maternel, pour ce qui est de la prise de responsabilité, bien à vous, nous dit Christophe.
Merci Christophe.
Bon, écoutez, on va voir ça avec nos autres auditeurs qui nous ont appelés au 32-16. Patrick, qui nous appelle de Francazal en Haute-Garonne. Alors Patrick, il est électricien, donc à mon avis, les consignes du gouvernement pour dépenser moins l'électricité, il connaît Patrick.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous.
Bonjour.
Mais en fait, c'est la conscience personnelle. Je pense qu'à un moment, moi, j'ai fait ma propre maison, j'ai bâti ma maison. Je suis électricien, j'ai pas mis... je suis resté sobre, alors que effectivement la technologie et tout permet maintenant de pouvoir équiper de plein de choses fabuleuses avec des maisons où on rentre dedans et la maison fait tout pour vous. Non, il y a un moment, il faut arrêter. Et effectivement, tout ça, c'est des choix personnels, c'est des orientations de vie qu'on choisit à un moment. Soit on continue dans ce système-là de consommation, d'acheter et tout, ou soit on a des prises de conscience, c'est des choix personnels. Et je n'écouterai surtout plus les gouvernements. Je ne peux plus les voir, je ne les écouterai plus, je ne les crois plus. Ça fait 20, peut-être, bon moi j'ai 48 ans, hein, ça fait 20 ans que dans les écoles, les profs disent attention, attention, attention. Ça fait 20 ans, vous avez un docteur à côté de chez vous, avec les soignants qui disent attention, attention, il va nous arriver ça. En fait, on a l'impression que là où on en est, c'est... Alors, soit ils sont vraiment, excusez-moi du peu, abrutis, ou soit c'est voulu.
Mais Patrick, juste vous en tant qu'électricien, donc vous allez chez les Français, etc. Est-ce que vous voyez quand même que les Français ils font plus attention, c'est-à-dire que vous installez aujourd'hui des choses plus économes, ils vous demandent des trucs et astuces.
Bah oui, mais c'est parce que soit on a des moyens et on continuera à vivre comme on vivait, mais la plupart des gens maintenant n'ont pas le choix dans tous les cas de faire attention. Le Français de base moyen, la famille moyenne de classe moyenne, voire moyenne sup maintenant, n'a pas le choix de faire attention. On est obligé de faire attention à ce qu'on achète, de faire attention à ce qu'on dépense. Et oui, nous, on n'achète jamais d'iPhone 14. Et oui, parce que déjà, la prise de conscience, c'est que ça ne sert strictement à rien de dépenser autant de pognon dans des choses aussi débiles.
Mais ça, c'est autre chose,
Ça, c'est des choses, ça, c'est des prises de conscience. Il y a des gens, celui qui ne veut pas prendre conscience continue à consommer bêtement, il continuera bêtement. Il n'écoutera pas du tout le gouvernement.
Donc, ça sert à rien.
Et moi, pour avoir un changement vie, j'ai plus besoin d'écouter le gouvernement. Parce que si on les écoutait, de toute manière, ils volent avec au flux des corporations actuelles avec lesquelles ils sont copains.
Oui, c'est un autre débat, Patrick.
Mais la politique, c'est ça.
Ça, c'est votre avis. Mais
qui donne l'argent.
Merci en tout cas, Patrick, d'avoir été avec nous. On partait sur totalement autre chose. Après ce que dit Patrick, c'est intéressant. C'est que c'est vrai que le gouvernement, par exemple, sur les économies d'énergie, il parle à des gens qui les font déjà. Nous, on a eu beaucoup d'auditeurs sur RMC qui nous disent moi, j'en ai marre qu'on me dise de mettre à 18 ou de couper mes lampes parce que c'est déjà ce que je fais, parce que j'ai plus d'argent, en fait, tout simplement, quoi.
C'est vrai, c'est pas vrai. Quand à un moment, il y a un gouvernement, quel qu'il soit, qui dit on va arrêter avec les lampes à filament, ça consomme trop cher. C'est pas cher, l'ampoule, mais ça consomme trop cher. On en interdit la vente et la production.
Exactement.
On le remplace par des lampes à LED. C'est bien une injonction du gouvernement pour vous forcer à faire des économies.
Moi, je suis pas d'accord. Ça, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit tiens, puisqu'il faut pas faire ça, on interdit. Et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ça nous culpabilise pas. C'est ça que je veux te dire. Moi, quand on me dit mets le chauffage à 18 et si tu mets à 20, t'es vraiment une mauvaise citoyenne.
Non, on te dit pas ça. On te dit pas t'es une mauvaise citoyenne. Tu le fais. Si tu le fais pas, on te dit voilà, c'est mieux pour vous de vous mettre pas à 18 mais à 19. De mettre à 19, y compris pour la santé, c'est mieux que de le faire à 22.
Ah oui, ça.
Et d'ouvrir les fenêtres, qui est tellement débile, c'est mieux pour l'avenir de votre planète. Mais vous pouvez pas à la fois nous dire je veux pas que le gouvernement il se mêle de tout, puis quand il vous donne juste un conseil en disant parce que c'est un conseil du gouvernement, je vais pas le suivre parce que c'est des cons. Je trouve ça aussi idiot l'un que l'autre.
Le gouvernement il nous dise à chaque fois que lui va faire dans les ministères. Est-ce qu'il va imposer la température entre 18 et 19
Il n'y aura jamais 19 dans les ministères.
Tu as parfaitement raison. L'histoire des voitures, quand la première ministre dit de la sobriété, il m'arrive d'y travailler encore de temps en temps à l'Assemblée nationale. J'ai toujours connu ces voitures dans la cour.
Ils continuent à chauffer à 25.
Parce que les mecs, ils ont la clim, etc. S'il n'y a pas une première ministre qui dit, les mecs, faut vous fassiez gaffe, ils se font pas rattraper par la patrouille. Et la semaine d'après où c'est sorti dans Mediapart et dans le Canard Enchaîné, je peux dire qu'il n'y avait plus personne dans la bagnole. Et on avait réglé le problème. Parce que la première ministre a sorti la directive. Les mecs se sont dit, c'est pas pour nous, ça ne nous regarde pas. Ils se sont fait choper par qui? Par ceux qui les surveillent, les citoyens. Et du coup, ils le font plus, la connerie.
Enfin, moi, j'aimerais bien voir au Sénat s'ils vont chauffer à 19, tiens. Je veux bien voir ça, tu vois, Jérôme.
Non, mais pour les maisons de retraite, il y a une exemption.
C'est ça. Ouais. Effectivement, j'allais t'en parler. C'est pas les maisons de retraite, ce sont les EHPAD. On est avec Anthony qui nous appelle de Laval. Bonjour, Anthony.
Bonjour tout le monde.
Et Anthony, pour vous, l'État nous infantilise trop.
Bah oui. En fait, j'ai l'impression que c'est la suite logique de ce qui se passe depuis 2 ans, en fait.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous gêne, Anthony, vous ?
Ben en fait, ce qui répète, c'est des choses qui devraient être logiques. En fait, j'ai été éduqué comme ça. Et puis, il y a plein de choses, il y a plein de paradoxes. Moi, je veux dire, on nous demande de ne pas chauffer à plus de 19 degrés cet hiver. Moi, je veux bien, mais qui chauffe au-delà de 19 degrés ?
Plein de gens.
Je ne peux pas me permettre de chauffer au-delà de 19 degrés.
La température moyenne des Français l'hiver, c'est 22 degrés.
Non, mais c'est hallucinant. Je comprends pas. Ça, c'est un truc. Quand on voit le prix de l'énergie, et pas que de maintenant, de toute façon, ça a toujours été.
Donc ça mérite de le rappeler de temps en temps quand même.
Mais c'est le problème du chauffage collectif aussi. Il y a des immeubles qui le respectent pas. Quand c'est collectif, vous pouvez pas faire autrement. Vous êtes obligé de suivre.
Et les centres commerciaux, t'es obligé d'aller en t-shirt. Oui. L'hiver, c'est le montage chaud. Donc après, c'est
pourquoi
ça.
Pourquoi moi, ce qui m'agace, c'est de le répéter à tout le monde. Moi, c'est ça. Je suis désolé, je suis le truc et ça me saoule. Dès que j'allume ma télé, n'importe quoi, j'entends ça. Et ça fait 2 ans que ça dure. Faites attention, lavez-vous les mains. C'est hallucinant. Moi, ça me gonfle. J'ai 35 ans. Et ça me gave d'entendre ça toute la journée.
Et est-ce qu'on va pas arriver aussi à quelque part une espèce de réaction, c'est-à-dire que les gens vont dire moi il y en a marre et puis puisque c'est comme ça je fais ce que je veux et puis mince quoi.
Je pense pas. Moi je suis pas rendu à ce point-là, mais je suis plutôt dans la réaction. Bah j'ai des coups de pas comme le buteur précédent. Hein. De toute façon, j'écouterai plus jamais le gouvernement quoi, c'est clair.
Oula. J'ai l'impression que vous êtes nombreux à plus vouloir écouter d'ailleurs.
Moi, je crois qu'il faut donner des informations. Quand on dit qu'effectivement les gens qui sortent des toilettes, qui ne se lavent pas les mains, et quand on fait des prélèvements et qu'on trouve un certain nombre de germes dans des Escherichia coli qui sont parfois résistants et qui peuvent entrer des infections urinaires ou d'autres infections. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Nous, voilà ce qu'on a remarqué. Maintenant, soyez conscients. Si vous attrapez une infection urinaire résistante,
c'est une question d'éducation. Moi, mes parents.
Bien, vous avez raison. Mais il faut le dire. Notre rôle, c'est d'informer. C'est pas d'imposer, on peut pas imposer, on va pas surveiller les gens à sortir des toilettes.
Enfin, on peut quand même regarder. Moi, si je vois quelqu'un qui sort des toilettes et sans cesse de laver les mains, je pense que je lui fais un regard noir pour bien montrer que j'ai vu, tu vois.
Mais bien sûr.
Vous savez ce qui serait le plus efficace, c'est qu'on remette ça à l'école dans le cadre de l'instruction civique.
Mais bien sûr.
Et qu'on amène les enfants au lavabo.
Que le gouvernement fasse un programme pour l'éducation, pour que l'éducation fasse des injonctions.
Oui. Aux enfants, c'est pas grave.
C'est au niveau de l'enfance qu'on intègre ce genre de comportement. Et l'école est aussi là pour ça.
Je me mets à la place d'Anthony, qui était notre auditeur à l'instant. Si lui respecte toutes les règles, bien sûr que ça le gonfle de les entendre à la télé. Mais Anthony, c'est pas pour vous le rappel, c'est pour ceux qui n'en ont rien à foutre de rien,
et
à qui on essaye de faire rentrer dans le crâne que c'est pas juste pour faire plaisir au gouvernement ou pas. Le gouvernement, il s'en fout.
Et on a le droit de relayer l'information.
Exactement. Vous avez des messages, Rémi ?
Oui, il y en a qui le disent. Alors, est-ce qu'ils vont entre le dire et le faire ? Qui disent, moi j'en ai ras-le-bol de ces injonctions du gouvernement. Moi, je ferai tout le contraire. Je fais ce que je veux. Bon, voilà, c'est ça. Et il y a Jamel qui nous dit, tout est question d'éducation. C'est ce qu'on vient de se dire. Ça me fait rire la prise de conscience pour l'économie d'énergie. J'ai 43 ans. Depuis tout petit, ma mère m'a appris à justement faire attention à tout, finir mon assiette, manger les restes de la veille, éteindre la lumière, ne pas gaspiller l'eau. On est dedans, donc on a l'habitude, nous dit-il.
Voilà, c'est une bonne maman, voilà, qui donne de bons
conseils. C'était un peu mieux avant, mais c'est pas grave.
C'est aussi une question d'éducation.
Ça m'étonne que Péricot nous ait pas sorti la phrase de Georges Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français.
Oui, il l'a certainement pensé. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi. Faut-il arrêter de nous infantiliser, Rémi?
C'est clair que ça saoule au bout d'un moment, puisque c'est oui à 89% de ceux qui sont
présents. C'est énorme. Ouais. Bon, dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. Marine Le Pen peut-elle accéder au pouvoir dans 5 ans? On vous posera cette question. Faut-il créer des structures d'accueil réservées aux agresseurs? Et puis, on parlera football. Paul Pogba est-il la partie émergée de l'iceberg? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h30 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on est toujours avec Rémi Barré, Perico Légas, Jérôme Lavrieux et Robert Sebag. Et on va tout de suite démarrer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Marine Le Pen est-elle aux portes de l'Élysée? En 2012, la fille de Jean-Marie Le Pen était arrivée troisième avec 18% des voix. En 2022, c'était 33,9% au second tour de l'élection présidentielle. Elle fait rentrer 89 députés RN à l'Assemblée. Et aujourd'hui, la question de l'avoir à l'Élysée est dans tous les esprits. Et pour cet auditeur dans les GG ce matin, c'est totalement possible pour 2027.
Ah oui, ça peut être son tour. Pourquoi ? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, dans tous les cas, on a tout testé. On a testé la droite, on a testé la gauche, on a testé M. Emmanuel Macron, notre nouveau président, qui nous a promis monts et merveilles. Et maintenant, est-ce qu'il n'est pas en train, justement, de pousser les gens à les écœurer de la politique ? C'est-à-dire, finalement, la politique, c'est tout le monde les mêmes, donc on peut tester un peu n'importe quoi. LFI, si on regarde tout ce qui se passe dans l'hémicycle, on ne voit pas beaucoup de sérieux. Alors que finalement, l'extrême droite, comme vous disiez, hein, ils se sont rachetés une conscience, ils se sont rachetés tout ce qui va avec, et maintenant, ils passent pour être présidentiable.
Marine Le Pen présidente en 2027, c'est possible ou pas, Jérôme Lavrieux ?
Le principe, c'est que tout est possible.
Oui, merci.
Parce que c'est dans les urnes que ça se déroule. Mmh. Moi, au politologue que je pourrais être, je vous dirais non, je ne le pense pas, parce que nous sommes en France, et compte tenu du mode de scrutin présidentiel. Nous serions dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne, avec pour la plupart des pays des scrutins à un tour, où c'est le Premier ministre, c'est-à-dire le chef du parti qui est arrivé en tête au premier tour, parce qu'il n'y a qu'un tour, qui dirige le pays, ce serait déjà le cas. Puisqu'elle est régulièrement en tête des élections au premier tour.
Vous êtes d'accord avec ça, Robert Sebag?
Ben, quand on regarde l'évolution de ce parti, si vous voulez, Jean-Marie Le Pen, 2002, il est à 88% pour Chirac, il est très très peu, puis ça monte au fur et à mesure, vous l'avez rappelé, 2017, 2022, des représentants. Ça dépendra beaucoup de deux choses. Ça dépendra d'abord qui pourrait succéder à Macron. Donc il va y avoir déjà, comme il ne peut pas se représenter d'ici 2027, est-ce qu'une figure macroniste, entre guillemets, type Édouard Philippe va apparaître. Que va-t-il se passer avec LR, le nouveau président de LR? Donc ça dépendra de la droite. Est-ce qu'il va y avoir un renouveau du Parti Socialiste ou est-ce qu'il va être complètement collé avec la NUPES et la France Insoumise? Donc il y a plein de points d'interrogation. Mais comme l'a dit Jérôme Lavrieux, oui, tout est possible aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pas irréaliste. 42% au deuxième tour aujourd'hui, elle était pas loin, si vous voulez. Donc ça dépendra de toute la conjoncture et ce qui va se passer jusqu'en 2027.
Vous croyez pas qu'il va y avoir quand même un renouvellement finalement de nos hommes et nos femmes politiques d'ici la prochaine élection présidentielle, Perico-Légas, et que ça va donner un nouveau souffle à d'autres partis en fait.
Ailleurs, oui. Mmh. Donc des gens dont on ne connaît pas l'expérience. Elle a une légitimité du temps. Il semblerait que le plafond de verre politico-psychologique soit pété et cassé. Et qu'aujourd'hui, peut-être grâce à Éric Zemmour qui a montré qu'il y avait une extrême droite...
Elle se casse toujours les dents au débat présidentiel.
Alors, je veux dire, elle ne gagnera pas, ni par son talent, ni par son courage, ni par son travail. Si elle gagne, c'est par la nullité du camp adverse. C'est-à-dire la non-réponse des autres formations de la politique française aux attentes du pays et la configuration politique et économique dans laquelle on se trouvera en 2027... Là, au train où vont les choses, on n'a pas l'impression que les choses vont s'arranger ni sur le plan de l'emploi, ni sur, voyez, et climatique. C'était
Ces réponses sur le climat.
J'ai écouté l'émission. Il y a un argument, je crois que c'est Consigny qui disait le risque, c'est qu'on se dise, c'était Laurent Marchat qui disait, on a tout essayé. La social-démocratie, le libéralisme, à gauche, à droite, un jeune. Macron a dit, on balaye le vieux monde, je suis le nouveau monde, en même temps, à gauche, à droite. Ça marche pas. Eh ben, j'allais dire, par dépit, nous allons expérimenter cette formation politique qui est aujourd'hui 90 députés, 89 députés, qui se comportent politiquement. Vous savez, ils essaient de pas faire une faute.
Très propre.
Ils vont mener cette législature. Ils se comportent en partie responsables. Ils sont très sérieux. Ils réunissent aujourd'hui toutes les conditions. Alors, est-ce que les Français seront assez nombreux en un deuxième tour? Et ça dépendra de l'abstention, si on continue. Si elle gagne, c'est parce qu'il y aura 45% d'abstention, un ras-le-bol total, l'électorat social-démocrate libéral. Ah oui, mais là, on l'a vu. C'est-à-dire que les autres opposants n'iront pas voter, beaucoup d'abstention. En tout cas, les conditions aujourd'hui sont plausibles. Une victoire de Marine Le Pen est politiquement plausible. Je ne dis pas du tout que ça arrivera, c'est plausible. Et si ça continue comme ça, elle a vraiment de bonnes chances de l'emporter.
En fait, ils ne disent rien, c'est pour ne pas dire de conneries. C'est la consigne qui leur a été donnée. Un député ne dit rien. Mais à un moment,
il y a des gens qui vont faire carrière.
On rentre dans la période présidentielle. Ils ont fait des carrières, mais ils n'ont pas été présidents. À chaque fois qu'on rentre dans la carrière, dans la campagne présidentielle, à un moment, il faut dire ce qu'on veut faire. Mm. Vous sortez de l'ambiguïté. Et comme le disait le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a une campagne présidentielle. Et c'est un moment important. Et je ne crois pas que ça finisse comme ça. Vous savez, les Français sont le peuple le plus passionné de politique qu'on ait jamais vu. Ils adorent ça, ils connaissent le moindre sujet politique, politicienne, tout en vomissant la politique matin, midi, soir. Ils sont passionnés par la politique. Lorsqu'il y a eu des élections présidentielles en 2017, pas 2022, 2017, ils ont empêché un président sortant de se représenter. Ils ont empêché un ancien président de revenir. Ils ont empêché 1, 2, 3 anciens premiers ministres d'être candidats ou de gagner l'élection présidentielle. Et pourtant, ils ne sont pas tombés dans les extrêmes. Ouais. Donc, il y a une intelligence collective de ce gouvernement, des gens. Ça n'empêche pas de râler, de dire, comme on l'a entendu deux auditeurs tout à l'heure, c'est tous des cons, des feignants, des voleurs, de tout ce que vous voulez. Mais à un moment, il faut diriger le pays. Et à un moment, il y a toujours... Voilà. Mais tout peut arriver quand même. Et c'est parce qu'on pense que tout ne peut pas arriver qu'on baisse la garde. Et moi, je pars du principe qu'il faut le faire. Et on aura un autre sujet, c'est que va devenir LFI et l'ANUPS, qui est l'espèce de pendant de l'autre extrême, qui est dans un état de décomposition morale, qui avance chaque jour un petit peu plus.
Et Mélenchon ne se présentera pas, en plus. C'est ce qu'il a laissé entendre quand même.
Oui, un jour et le lendemain, il était plus ambigu. Oui. Marine Le Pen avait dit qu'elle ne se représenterait pas, que c'était son dernier tour. Oui. Elle est plus ambiguë maintenant.
Sauf ils n'ont pas le même âge.
S'il a que des gens confrontés à des problèmes de mœurs autour de lui, lui qui est irréprochable, il serait bien obligé d'y aller.
La possibilité, oui, elle existe. Mais avant une élection, il y a une campagne électorale.
Oui, oui.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est la nullité, si vous voulez, au niveau de la politique internationale. La conférence de presse de Marine Le Pen qu'elle avait faite avant la campagne sur la politique étrangère, c'était à frémir. Il n'y avait aucune pensée, il n'y a pas d'histoire, il n'y a aucun recul par rapport à ça. Et donc, ça serait des alliances par rapport à la
Il n'est pas forcément dit que ça soit elle non plus, ça peut être Bardella. Et là, je peux vous dire que ça change tout. Et n'oublions pas la nièce.
Il n'a jamais travaillé de sa vie, il n'a fait que de la politique depuis qu'il est jeune. Quelle est la réalité qu'il a de la France? Voilà, on peut se poser un certain nombre de questions, mais avant une élection, il y a une campagne. Et la campagne peut tout changer.
Ouais. Deuxième extrait dans ce zapping, la matinale week-end hier. Faut-il créer des structures d'accueil réservées aux agresseurs? Depuis le mouvement MeToo, la parole s'est libérée. Plusieurs mesures ont été prises pour prendre en charge les femmes, mais rien n'est fait pour les agresseurs. La comédienne Alexandra Lamy était dans la matinale week-end sur RMC hier pour parler de son nouveau film Touché sur TF1 consacré aux violences faites aux femmes, et elle plaide pour une prise en charge des agresseurs. Écoutez.
Moi, il y a toujours un truc que j'ai trouvé toujours bizarre, c'est-à-dire je me dis, c'est marrant, pourquoi dans une maison où il y a un agresseur, on retire la victime et les enfants? Pourquoi on ne retire pas déjà l'agresseur? Il faut s'occuper aussi de l'agresseur, parce que souvent l'agresseur, d'ailleurs, à 75%, il a été lui-même agressé. Mmh. Et de faire aussi des maisons, parce que le problème qu'il y a, c'est que pourquoi on n'arrive pas à enlever les agresseurs? C'est qu'on ne sait pas où les mettre, puisqu'il n'y a pas d'association qui s'occupe pour ça. Il y a très peu qui s'occupent des agresseurs. Alors que si on avait peut-être un endroit, alors évidemment, c'est compliqué à faire, mais où on peut travailler avec ces gens-là, qu'on puisse les retirer, qu'on puisse les laisser la femme chez elle avec ses enfants, le temps de se reconstruire, le temps de retrouver du travail, que tout, et peut-être de faire un travail aussi avec l'homme qui a été lui-même et agressé et qui est lui-même agresseur.
Robert Sebag, faut faire des choses pour les agresseurs.
Ça dépend quel type d'agresseur et quel type d'agression. Donc Monsieur Quatennens, on va le mettre dans une maison particulière. Puisqu'on en revient à notre premier débat. Mais aujourd'hui, si vous voulez, en cas de viol ou en cas de féminicide, alors beaucoup plus grave, il y a ce qu'on appelle des prisons. Aujourd'hui, ils sont condamnés à la prison. Donc c'est déjà. Alors après, il faut voir en fonction du niveau de l'agression, bien que toute agression contre des femmes est répréhensible. On va faire quoi? On a déjà des problèmes d'hébergement sur les personnes qui ne peuvent pas être expulsées du territoire. Où il n'y a pas assez de place. Donc c'est quoi? D'un côté, vous avez la prison, et de l'autre côté, c'est quoi? C'est les travaux d'intérêt général. Donc qu'est-ce
parce
qu'elle entend?
Est-ce que c'est parce que tu vas repeindre la mairie que tu recommenceras plus? Ça m'étonnerait. Hein.
D'accord, mais c'est quoi alors? C'est l'alternative à la prison. Donc c'est quoi? C'est un centre particulier où on va leur refaire
une obligation de soins psychologiques. Ça paraît.
Alors obligation de soins psychologiques, oui. Aller pointer régulièrement au commissariat s'il y a un suivi judiciaire, un contrôle judiciaire, ce genre de choses. Mais maison particulière. Agresseurs, oui, il y en a beaucoup, mais quel type d'agression et quel type d'agresseur?
Au moins les mettre au vert, entre guillemets, et faire qu'ils ne frappent plus, ça paraît.
Ah non, non, mais
bien ça, entendu. Ça, c'est une décision de justice.
De justice, oui.
Qui arrive à la fin d'un long processus.
C'est l'alternative à la prison.
Ce que dit la personne qu'on a entendue, il existe des associations qui le font. On peut aussi être condamné à un stage de parentalité qui se font, qui prennent plusieurs jours, on vous recadre, etc. C'est la justice qui décide de vous condamner à un stage de parentalité, on vous explique. On vous redonne les bases. Il y a des psychologues qui sont là. Et qui vous disent, voilà, ça vous ne pouvez pas, ça on peut pas. Voilà comment il faut se procéder, etc. Et oui, parce qu'il faut reprendre les choses à la base chez certaines personnes. Donc ça existe.
On dit, taper votre femme, c'est pas bien. Les gens ne le savent pas, vous voyez.
Il y en a pour qui ça a été leur quotidien de voir leurs parents se taper dessus. Et ils savent pas qu'on ne peut pas le faire. Ça existe dans beaucoup. C'est ce qu'on appelle la reproduction, en fait. Ouais. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que, je suis désolé, mais quand on est le pays de l'Union européenne, où on doit être avant ou avant-dernier, sur la part du budget consacré à la justice, parce que la justice, c'est pas juste des magistrats avec des longues robes rouges qui tapent du marteau pour vous condamner après un procès, c'est aussi tout ce qui va autour, et la prise en charge, la prise en soins de soins, etc., la lutte contre la récidive, faut pas s'étonner que ça marche pas terrible.
Péricolégas, c'est une bonne idée, ça?
Je crois que la pédagogie ne peut s'appliquer que dans des cas très précis de personnes qui ont une défaillance légère et provisoire, et que malgré tout, non, ça c'est un discours humano-opportuniste, bien pensant, qui dit qu'il y a toujours une rémission possible. Voilà, s'il y a eu faute et s'il y a eu faute de comportement, il faut quand même passer. Le drame, c'est quoi? C'est que la prison, elle est destructrice. Voilà, la prison doit être constructrice. Donc, c'est toute la politique pénitentiaire qu'il faut être pensée et le suivi. Et le suivi, alors, le bracelet, tout ça. Mais on voit bien aujourd'hui que ça marche pas. Mais la solution, elle est que là, hein. Elle est pas dans les centres d'accueil ou,
voilà. La lutte contre l'alcoolisme, parce que très, très souvent,
évidemment.
La raison de la violence dans le couple, c'est souvent l'alcoolisme.
Et la drogue.
La drogue aussi.
Troisième extrait dans ce zapping, Apolline Matin. Ce matin, Paul Pogba est-il la partie émergée de l'iceberg? Le joueur est au cœur d'une affaire de tentative d'extorsion. Ce week-end, son frère Mathias et trois de ses amis proches ont été mis en examen et incarcérés. Et pour Jean-Philippe Asensi, président de l'Agence pour l'éducation par le sport, il y a des milliers d'autres jeunes champions menacés par leurs anciens amis d'enfance. C'était ce matin dans la matinale d'Apolline.
Il faut accompagner rapidement et dans les prochaines semaines, il faut des mesures très très fortes pour accompagner ces grands champions.
Il n'y a pas d'autres Paul Pogba.
Mais il y en a plein d'autres, madame. Il y en a plein d'autres, personne ne le sait. Il y en a plein d'autres qui sont des jeunes champions et qui se retournent vers leur famille, leurs anciens amis. C'est l'Eldorado, Paul Pogba qui gagne des millions, c'est l'Eldorado.
Voilà, et sachez que jeudi, l'invité d'Apolline de Malherbe dans Apolline Matin, ce sera Elisabeth Borne, la première ministre. Qu'est-ce qu'on fait justement? Alors là, on voit que le foot français, c'est une catastrophe. Hein, entre la Fédération française, Paul Pogba, l'affaire...
Benzema auparavant.
Oui, bah, l'affaire surtout de la joueuse du Paris Saint-Germain qui a quand même été attaquée à coups de barre de fer. On voit bien qu'il y a un problème avec les amis d'enfance. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces joueurs, Jérôme Lavrie?
J'ai l'impression de... Les reportages qu'on voit le samedi après-midi dans les grandes chaînes nationales, où on fait un reportage sur quelqu'un qui vient de gagner au loto et dont la vie est bouleversée du jour au lendemain, qui découvre qu'il avait plein d'amis qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, qui viennent lui demander de l'argent. Ben, un gamin, je suis désolé de le dire, qui n'a fait que du foot et qui du jour au lendemain gagne au loto, et ben ça doit attirer beaucoup de choses. Il faut être charpenté sa famille et ses vrais amis pour faire ça. Et là, c'est son frère qui fait ça. Ouais. Mais en fait, ils font quoi? Ils se comportent comme vis-à-vis du voisin qui a gagné au loto. Hein, et ils sont prêts à tout pour le faire. C'est juste hallucinant. Ils ne se rendent pas compte qu'en plus, ils sont en train de tuer la poule aux œufs d'or.
Après, il y a aussi beaucoup de parents qui poussent aussi les enfants à faire du foot parce qu'ils savent que ce sera le gagne-pain de la famille, malheureusement.
Mais quand vous avez un gamin qui est mineur, qui fait du cinéma, qui gagne des millions quand il est gamin...
C'est moins fréquent.
Non,
l'argent est gardé.
L'argent, il est gardé. Les parents ne peuvent pas le dépenser non plus.
Oui, mais jusqu'à 18 ans. Mais là,
et quand vous gagnez des grosses sommes au loto, vous pouvez être prise en charge, ils le mettent à votre disposition pour vous apprendre comment on s'en sert.
Si on a créé des... Il y a des joueurs qui ne veulent pas revenir en France, notamment pas avant au PSG, parce qu'ils ont la famille en région parisienne et qu'ils savent bien que ça va être compliqué.
Quand on a créé ce genre de choses, le métier d'agent, le métier d'avocat, on parle, moi je n'y connais strictement rien au foot, je suis désolé, il ne faut pas m'en vouloir, mais le contre-exemple qu'on nous sort à chaque fois, c'est Mbappé, où on dit, mais la famille est solide, il est accompagné, pas forcément d'agents, mais d'avocats qui regardent tout, etc., et qui prennent les décisions, qui l'aident et qui l'accompagnent. Mais après, chacun est libre de claquer son fric.
Il n'a peut-être pas eu les mêmes amis d'enfance non plus. Voilà, c'est ça aussi. Et le problème, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, les joueurs de foot sont devenus des proies.
Peut-être que ça s'apprend d'être riche. Le jour où je le saurai, je viendrai vous le raconter.
Mais dans les centres de formation français, cas, aujourd'hui, on apprend quand même, enfin, il y a des cours, on explique quand même aux gamins comment pas se faire avoir, etc. Mais c'est compliqué quand, effectivement, vous avez 16 ans, que vous gagnez des sommes que jamais vos parents ne gagneront dans une vie. Vous êtes une proie.
Il faut être très solide pour résister à cette pression.
Très bien entouré. Ouais. Et malheureusement, c'est compliqué à 16 ans de choisir parfois son entourage et même ses conseillers financiers. Enfin, c'est quand même sordide ce qui se passe.
On va peut-être penser à des rétributions, peut-être un jour, non?
Ça n'a rien à voir, parce que de toute façon, tu peux le faire en France, mais comme Paul Pogba, il joue pas en France, il joue à l'étranger.
Donc, de toute façon, au niveau international, on peut pas s'entendre sur le fait qu'il y a des seuils financiers à franchir.
Bah non, parce que tu penses même quand un club te donne allez 300 000 euros par mois, c'est parce qu'ils gagnent plus. Les gens sont pas bêtes.
Et l'échelle, la tribu, parce qu'il y a beaucoup de.
Non, mais on peut pas avoir une fiscalité qui régule.
Il y a beaucoup d'auditeurs.
On laisse le marché faire ce qu'il veut.
Mais on n'arrive déjà pas à s'accorder sur les prix du tabac en Europe.
Même s'ils gagnaient, il y en a qui gagnent 100 millions, mais même celui qui gagnerait que 1 million, c'est toujours énorme pour plein d'autres personnes qui gravitent autour.
Ils sont originaires de banlieues extrêmement pauvres. Ils avaient des copains, ils jouaient au ballon dans la cour de leur immeuble, tout d'un coup il y en a un qui sort du lot, ils ont dit mon copain t'as pas oublié tout ce qu'on a fait ensemble,
doit quelque chose,
il y a un problème d'emprise après d'entourage. C'est inévitable, mais c'est un problème d'éducation.
Je suis dans la difficulté, dans la galère. Voilà. Toi, tu peux.
Tu vas pas me laisser tomber. Rappelle-toi quand on jouait ensemble, on faisait des petits coups.
Du doigt et du quartier.
Voilà. Et le joueur te dit souvent, je sais d'où je viens. J'ai jamais oublié d'où je viens. Et c'est une fierté de dire, je sais d'où je viens. Je reviens effectivement voir mes potes, etc. Et pour pas être celui qui ne sait plus d'où il vient justement. Bon, dans un instant, Stéphane Pedrazzi, la minute conso. Vous allez voir comment acheter un appartement pièce par pièce. Vous allez voir, c'est très pratique. À tout de suite dans les
séries. Non, mais c'est pas grave.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h51, c'est le moment de parler conso et immobilier avec Stéphane Pedrazzi dans Estelle Midi.
RMC, Estelle Midi,
la minute conso.
Et oui Stéphane, chaque jour dans Estelle Midi, vous nous donnez un petit peu des bons plans pour mieux consommer. Et là, vous allez nous donner un bon plan. C'est un peu une révolution dans le monde de l'immobilier. Une nouvelle façon d'acheter sa maison ou son appartement pour ceux qui n'ont pas réussi à obtenir leur crédit.
Ouais, et là, malheureusement, ça concerne de plus en plus de monde. Actuellement, entre 40 et 50% des demandes de crédit sont refusées par les banques. La principale raison, on en avait parlé, c'est le taux d'usure, c'est-à-dire le taux maximum que les banques ne peuvent pas dépasser lorsqu'elles accordent un prêt immobilier. Mais ça peut coincer pour plein d'autres raisons. Si par exemple vous êtes en CDD, si vous avez des revenus irréguliers, si vous avez des revenus insuffisants, tout ça fait que la banque peut refuser. Et c'est de plus en plus difficile de devenir propriétaire. Mais heureusement, il y a des solutions alternatives, notamment un système qui vous permet d'acheter votre logement pièce par pièce en fonction de vos moyens. Vous commencez par exemple par le salon, par une chambre ou juste par la salle de bain et les toilettes si vous avez un petit budget. Techniquement, ça porte un nom, ça s'appelle l'APPI, l'accession à la propriété par l'indivision. C'est très récent, hein. Ça avait été lancé fin 2021 par OGIC, c'est un promoteur immobilier. Et donc le mécanisme est tout nouveau et assez peu connu.
Mais alors, je comprends pas. C'est-à-dire que je veux acheter un appartement, j'achète d'abord ma chambre et mon salon, et puis mes toilettes qui les achètent. Enfin, comment je fais ?
Il y a un autre propriétaire à vos côtés. C'est un investisseur institutionnel. Il s'appelle Inli, INLI. Donc, techniquement, vous êtes en indivision. C'est un petit peu comme quand vous héritez d'un logement de famille entre vos frères et vos sœurs. C'est de l'indivision. Chaque mois, vous remboursez un crédit à votre banque si vous avez fait un prêt pour acheter la partie dont vous êtes propriétaire. Et puis, vous payez une sorte de loyer, une indemnité d'occupation à l'autre propriétaire du logement. Et là, la bonne nouvelle, c'est que vous payez 15% en dessous du prix du marché, parce qu'à la base, c'est un mécanisme social. Et au bout de 5 ans, vous avez la possibilité de racheter les parts que vous ne possédez pas encore par palier de 10%, et vous avez jusqu'à 15 ans pour le faire. Donc ça a plein d'avantages. Ça vous permet de devenir propriétaire, notamment dans les zones tendues, là où le prix du mètre carré atteint des niveaux records, à Paris par exemple, mais aussi d'acheter directement un appartement plus grand si vous pensez agrandir votre famille. Donc si vous avez prévu d'avoir un ou plusieurs enfants, c'est bien d'acheter plus grand au départ et vous n'aurez pas à déménager. C'est doublement une bonne idée.
Mais alors, est-ce que ça coûte plus cher au final ?
Alors, ça, effectivement.
Il y a forcément un loup.
Alors, il y a quelques frais et des charges liées à l'indivision, mais les frais sont répartis entre vous et l'autre propriétaire. Au final, c'est pas très, très cher. Et n'oubliez pas que c'est un mécanisme social. Donc, l'idée, c'est de vous aider à devenir propriétaire, pas à vous assommer de frais et de charges supplémentaires.
J'imagine qu'il y a des conditions à respecter, c'est pas pour tout le monde ?
Il y a beaucoup de conditions. Déjà, la première, ça ne fonctionne qu'avec la résidence principale. Vous ne pouvez pas acheter un appartement à la montagne ou une villa au bord de la mer avec ce système. Ça n'est pas fait pour ça. Ensuite, la sous-location n'est pas autorisée. Vous ne pouvez pas prendre un étudiant ou une étudiante dans la chambre que vous ne possédez pas encore pour vous aider à payer l'indemnité d'occupation. C'est interdit dans le contrat. Il faut pouvoir au départ acheter 30% du bien immobilier. Quand je vous disais, on commence par les toilettes. On ne peut pas commencer par les toilettes, sauf si c'est des toilettes XXXL qui font 30% du logement.
Il n'y a pas grand intérêt.
Voilà, mais soit vous avez la somme d'argent disponible, soit vous pouvez avoir un crédit bancaire. Mais en tout cas, il faut pouvoir commencer par 30%. Ensuite, il faut respecter des critères financiers en cumulant le remboursement du prêt et l'indemnité d'occupation, ça ne peut pas dépasser 28% de votre revenu. Et enfin, et c'est sans doute la principale condition, il y a des conditions de ressources, de revenus. Il ne faut pas dépasser 39 363 euros par an pour une personne seule.
Ouais.
Mais ça va grimper assez vite. Si vous avez 3 enfants à charge, le revenu doit être aux environs de 100 000 euros par an. 100 279 exactement pour un couple avec 3 enfants. Donc, conditions de revenus, mais quand même pas trop, trop basses non plus.
Ouais, c'est quand même beaucoup de conditions. Mais si on n'a pas les moyens de racheter les autres parts du logement, on fait comment ?
Alors, déjà, vous avez 15 ans pour le faire. Ça laisse le temps de voir venir. Si vous achetez aujourd'hui, vous avez jusqu'en 2037 pour acheter les autres parts. Sinon, il y a des conditions de sortie. C'est prévu dans le contrat, des conditions pour revendre vos parts à l'investisseur. Sinon, si vous ne payez pas, alors là aussi, c'est prévu par le contrat. Attention, c'est comme dans un logement traditionnel. Si vous ne payez ni le loyer, ni le crédit, vous risquez tout simplement d'être expulsé. Donc, mécanisme social, oui, qui permet à des personnes d'accéder à la propriété. Donc, c'est une très, très bonne idée. En fin de compte, il faut quand même payer son loyer et son crédit.
Ouais.
Deux adresses pour vous renseigner. Ogic, c'est le promoteur qui a lancé ce système. Ogic.fr ou alors Inly, c'est le copropriétaire qui va acheter avec vous. Inly.fr également pour vous renseigner.
Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi, tous les jours à 13h50 dans Estelle Midi. Qu'est-ce qu'il y a, Robert ?
Mais il y a une question majeure.
Quoi ?
Vous achetez 30%, donc il en reste 70% qui appartient... Mais au bout de 15 ans, ces 70%, ils ont peut-être augmenté, donc le prix de l'appartement, est-ce qu'il va rester par rapport aux 70% au prix au moment où vous avez acheté les 30%? En 15 ans, pour avoir une augmentation majeure du logement. Donc,
alors, vous allez sur Inly.fr et vous leur demandez.
Je leur demanderai.
Voilà.
Nul n'est censé rester dans l'indivision, tout
très bien. Merci beaucoup, Stéphane Pedrazzi. On vous retrouve demain, 13h50. Dans un instant, on vous posera cette question dans Estelle Midi pour ou contre la corrida. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.